France Musique.
Merci Rodolphe, Bruno Boulmier.
On vous retrouve demain matin à 10h sur France Musique.
Leur belle saison. Nicolas Lafitte et Jean-Baptiste Urbain.
On a envie de faire avec lui, on a envie de l'aider, on a envie de communier en fait.
Je pense qu'il a un énorme potentiel sexy et sympathie qui transmet énormément à ses musiciens.
Bienvenue, bonjour à tous, bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Baptiste.
Ils étaient 8 aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Ne craignez rien, ce n'est pas la finale ce soir du grand jeu de radio télé-réalité estivale de France Musique, c'est juste, sortez vos mouchoirs, le dernier de nos portraits consacrés à de jeunes musiciens au talent impressionnant. Et pour cet ultime épisode, Nicolas, voici le doyen, c'est vrai qu'il est déjà très vieux, rendez-vous compte, il a presque 30 ans.
Oui, et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui, mon cher Jean-Baptiste, car notre invité n'aura peut-être même plus le temps de passer nous rendre visite dans les studios de Radio France dans les prochaines années, tant sa carrière est prometteuse. Petit, il chantait. Ado, il chantait. Jeune adulte, il chantait toujours. Mais dorénavant, du haut de son pupitre de chef, ce sont les instrumentistes et les choristes de son ensemble Pygmalion qu'il fait chanter avec simplicité, fermeté et bonne humeur. Toute cette saison, il s'est baladé avec les partitions de Jean-Philippe Rameau et de Jean-Sébastien Bach dans son sac. De grandes salles en festivals prestigieux, l'impression sur le public et la critique est toujours la même. Ce jeune chef est génial. 50 minutes seront beaucoup trop courtes pour évoquer son parcours et sa musique. Alors ne perdons pas de temps et embarquons tout de suite dans la belle saison de Raphaël Pichon.
Bonjour Raphaël Pichon.
Bonjour.
Le Gloria de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, vous dirigiez sur ce disque en 2012 votre ensemble Pygmalion. Raphaël, c'est un ensemble que vous avez fondé il y a presque 10 ans maintenant.
En 2006, très exactement.
Vous avez presque 30 ans. Ne seriez-vous pas un jeune homme pressé?
Pressé de toujours plus de musique, ça c'est sûr. Il se trouve que notre aventure avec Pygmalion a commencé alors qu'on était tout jeunes, on était tous... Encore étudiant en conservatoire, avec une vraie envie, un vrai besoin de créer notre propre aventure. Mais ce que j'espère, et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est vraiment un credo pour moi et pour Pygmalion. Il faut prendre le temps de connaître un répertoire, connaître ses musiciens, connaître un contexte, un environnement. Donc, pressé de toujours plus de musique, oui. Pressé d'arriver... à certaines pages du répertoire, oui, mais prendre le temps d'y arriver aussi.
On a appelé cette émission Leur belle saison. En l'occurrence, ce n'est pas cette année, ce n'est pas cette saison que votre talent a éclaté au grand jour et que votre carrière a décollé, Raphaël Pichon. Mais enfin, il y a des moments marquants, on va les parcourir jusqu'à 19h. Qu'est-ce qui vient tout de suite à l'esprit quand vous refaites le film de cette saison, de cette belle saison ?
Notre première Messancy, je crois. Notre première Messancy en entier, si je puis dire, totale. Sa version primitive, avec quelques différences qui nous permettent un petit peu d'éclairer notre connaissance de cette œuvre. Mais nous avons donné pour la première fois la Messancy dans son entier, avec notamment une première date à la salle Pleyel en décembre. Ensuite, il y a eu, là, tout dernièrement, au mois de juillet, une première tentative de porter Bach à la scène, et avec, pour moi, à titre personnel, une très très grande rencontre avec la metteur en scène Katie Mitchell.
C'était à Aix-en-Provence. Hein.
Exactement, au Festival d'Aix-en-Provence.
Trauernacht, la nuit du deuil, on peut dire ça comme ça.
Exactement, la nuit de deuil.
Nuit de deuil.
Je dirais aussi qu'il y a l'aboutissement d'un projet Bach qui me tient beaucoup à cœur, qui est la reconstitution de sa cantate la plus longue, qu'on s'est perdu aujourd'hui, mais qu'on a tenté de reconstituer pendant 3 ans, un travail un peu de longue haleine, et qu'on a enregistré pour aussi un événement marquant de cette saison, qui est le fait que nous avons changé de maison de disque, et nous avons signé chez Harmonia Mundi, qui est aussi un rêve d'enfant, je crois, un rêve d'adolescent, parce que ce sont vraiment les artistes et les disques qui ont guidé ma jeunesse et mon appétit de musique à cette époque-là. Voilà, il y a aussi une tournée en 2 temps que nous avons fini au mois de juillet dernier avec Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau, que nous avons gravé aussi pour Harmonia Mundi, avec toute une jeune brochette de chanteurs français de ma génération, qui a été une très très belle aventure aussi. Et il y a eu aussi les premières explorations de nouveaux répertoires avec beaucoup de nouvelles figures romantiques qui représentent un petit peu l'héritage de Jean-Sébastien Bach, Mendelssohn, Brahms, Schubert, que nous avons donné notamment au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Et puis il y a eu ce chef-d'œuvre oublié, je pense, qui est vraiment un trésor de la période classique, qui est l'un des 2 Requiem de Michael Haydn, frère cadet du Haydn plus connu. Voilà, donc une saison très riche.
Parmi vos concerts de l'été, il y avait au tout début de la saison estivale, en juin, le Festival de Saint-Denis. Et c'est là que Nicolas Lafitte a rencontré Olivia Hugues du Quatuor Ardeo à Saint-Denis. C'est la première fois qu'elle jouait au sein de Pygmalion. Alors, c'est comment une première fois avec Raphaël Pichon ?
Il arrive à conjuguer la voix et les instruments de façon très très juste. Je pense qu'en tant qu'instrumentiste, on devrait beaucoup plus se référer au texte, et là c'est le cas évidemment. C'est ça qui est intéressant, et ce qui est intéressant aussi chez Hervé. Chez les grands artistes instrumentistes, souvent ce qu'on repère, c'est que ça parle. J'ai l'impression qu'il arrive à transmettre l'envie chez tout le monde de faire quelque chose le mieux possible en commun, c'est-à-dire quelque chose de très collégial. Et je vois que des mines réjouies, en fait, quand je regarde à droite à gauche, et moi la première. Je me mets dans ce groupe, j'ai l'impression que tout le monde est là pour faire le mieux possible, on est tous à serrer les coudes pour que ce soit le plus beau possible. Et on a envie de faire avec lui, on a envie de l'aider, on a envie de faire ça ensemble et de communier, en fait. Je sens ça, très fort.
Mesure 14, des basses, est-ce qu'on peut dire plus troisième temps et moins le reste ? Ça c'est un peu et ténor.
Raphaël Pichon, Olivia Hugues parlait de communion entre les chanteurs et les instrumentistes. Donc c'est cette harmonie, c'est cet accord parfait que vous recherchez.
Bien sûr, bah je pense que de toute façon dans toute musique de chambre, enfin, c'est-à-dire de musique à plusieurs, évidemment la musique commence au moment où tous les artisans et tous les musiciens sont prêts à écouter, et donc sont prêts à communiquer, et donc sont prêts à échanger. Alors effectivement, communion peut être un mot qui résume tout ça, il y en a d'autres, mais effectivement, je pense que c'est encore une fois voilà, le début de la musique. Et c'est pour ça aussi que je crois fermement que pour Pygmalion, l'équilibre, il est aussi bien musical qu'humain. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être amis à la vie et à la mort ou partir en vacances ensemble. Ça veut dire qu'on partage le même appétit, la même volonté de servir la musique, de s'écouter, de se respecter. C'est très banal ce que je dis, mais je pense que malgré tout, c'est des choses qu'on peut assez vite oublier parce qu'il y a tellement de paramètres dans la musique et puis dans la création d'un ensemble, d'un orchestre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent venir parasiter cette écoute mutuelle. Et je pense que de revenir à ça et de tenter d'en établir la base de nos projets musicaux, c'est la possibilité de la musique.
Et pourquoi être le chef de ces uns, de ces autres-là ? En gros, qu'est-ce qui vous a attiré vers la direction ?
Je pense que c'est à peu près inexplicable. Je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que je sais que c'est... Je ne dis pas que c'est le seul métier que je pourrais faire, mais c'était très évident pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une adolescence remplie de musique. J'ai fait de longues études de violon et de piano. Et puis, j'ai eu cette chance de commencer à chanter. J'ai un souvenir très précis d'un premier choc quand je devais avoir 8-9 ans. C'était justement la Passion selon saint Jean de Bach. Et j'étais allé un peu entraînant les pieds dans ce chœur, dans cette maîtrise. Et un premier souvenir presque sensitif, sensoriel de quelque chose qui vous dépasse, de cette musique qui vous imprègne. Et après, c'est presque une sorte de drogue. Et tout ça se manifestait par une sorte de boulimie, d'être de musique, de projet. Et donc, en fait, assez naturellement, d'être celui qui porte ces projets.
Les choristes de l'ensemble Pygmalion, sous votre direction, Raphaël Pichon au Festival de Saint-Denis en juin dernier. Un extrait de L'Ave Regina Cellorum de Michael Haydn, très belle musique. On entend peu la musique de Michael Haydn, le frère cadet de Joseph.
Il se trouve que c'est un compositeur qu'on apprend à redécouvrir depuis quelque temps. On n'est pas du tout les premiers à en donner ses œuvres. Il se trouve que ce Requiem, notamment, qui suivait ce motet, a quand même un certain succès encore aujourd'hui en Allemagne ou en Angleterre, très très peu en France. Mais il se trouve que ce Michael Haydn a tout simplement un peu souffert du rayonnement européen de son frère. Et puis on sait aussi que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus timide, beaucoup plus discret, qui a vraiment voué sa vie à la musique sacrée, donc qui était maître de chapelle au dôme de Salzbourg, à la cathédrale de Salzbourg, et qui a un très 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 grand catalogue justement de musique sacrée, et qui fait partie de ces compositeurs qui ont vraiment à la fois su digérer la totalité de l'héritage des anciens. Là, ce qu'on vient d'entendre, par exemple, ce motet à double cœur, on pourrait presque croire que c'est un motet de Palestrina. Mmh. Et malgré tout, alors là, on n'a entendu qu'une petite partie, mais la suite de ce motet s'aventure dans des contrées harmoniques qui sont très propres à Michael Haydn. Et dans son Requiem, c'est un petit peu la même chose. On a vraiment la sensation d'entendre déjà le Requiem de Mozart, alors que pourtant, on a aussi un pied dans le Stabat Mater de Pergolèse, par exemple. Et d'ailleurs, on sait que ce Requiem a eu une influence extrêmement forte et très directe sur celui de Mozart lui-même, parce que Mozart a joué à l'alto, dans l'orchestre, à la création de ce fameux Requiem. Et donc c'est à la fois un travail de synthèse et déjà des premières étincelles de ce que pourrait être le futur langage typiquement viennois des grandes œuvres sacrées qui vont suivre la fin du XVIIIe siècle et celle du XIXe siècle. Et c'est toutes ces notions de filiation entre les compositeurs, dans l'histoire de la musique, dans l'histoire des cultures, et notamment dans celle de la culture germanique qui m'intéresse particulièrement et qui va aussi beaucoup nous intéresser avec Pygmalion dans les années à venir.
Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, vous avez baigné dans la musique pendant votre enfance. On va revenir à cette enfance. Vous êtes né en 1984, vous avez grandi du côté de Versailles. Est-ce que vos parents étaient musiciens ou mélomanes ?
Alors, je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont les uniques personnes de leur propre famille à être un petit peu musiciens. Ma mère était pianiste amateur et mon père est un fondu de guitare classique et de répertoire espagnol. Et il se trouve qu'à côté de chez nous, il y avait ces presque privilèges que sont ces classes à horaires aménagés. Mmh. Voilà. Et j'y suis rentré, j'ai commencé des études de violon, pour lequel je n'étais pas forcément très très doué, avec un professeur qui m'a un petit peu dégoûté du violon. Mais j'ai eu la chance assez vite après de commencer à chanter. Et encore une fois, je crois que ça a vraiment été là le déclic. Et donc j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au sein de cette maîtrise, dirigée par une personnalité très très forte, qui a été très importante pour moi durant mon adolescence, qui est Jean-François Frémont, qui est toujours maître de chapelle à Versailles, et qui m'a donné la possibilité de... Voilà, j'ai très vite commencé des études de clavier, de piano, d'orgue et de clavecin, et donc j'ai beaucoup accompagné les répétitions, accompagné les offices, commencé à agiter les bras pendant les tournées, à faire les répétitions, et... Voilà, ainsi de suite, et comme j'en demandais toujours plus, ça a été assez naturel pour moi ensuite de fonder cet ensemble Pygmalion.
Jean-François Frémont, vous en avez parlé, c'est quelqu'un de très important depuis tout petit pour vous. On va l'écouter tout de suite.
Raphaël était un enfant qui se signalait par une certaine vivacité, à la fois d'esprit, de réaction, de musicalité. C'est vrai que Raphaël était extrêmement réactif, intéressé partout. Voilà. Alors, ce n'était pas un grand travailleur, hein, il faut tout de même bien le dire. Comme tous les enfants doués, hein, il fallait quand même le pousser dans ses retranchements pour qu'il se mette au travail. Alors, en général, quand il s'y mettait, c'était toujours un peu tard par rapport aux échéances, mais ça fonctionnait parce que, bien sûr, avec les dispositions dont il faisait preuve déjà à ce moment-là, ça ne posait pas de problème. Hein. Mais on ne peut pas dire que, effectivement, c'était un travailleur acharné.
Bah alors, le petit Raphaël Pichon était paresseux comme ça.
Je dirais pas ça, mais j'étais un tout petit peu désorienté par un problème justement lié à la boulimie. C'est-à-dire que effectivement, j'en voulais toujours plus. Mais je crois que j'ai depuis compris, après certaines étapes importantes, un peu avant mes 20 ans, que le travail est la clé de tout. Et je pense que c'est quelque chose qui a... Notamment mes années au conservatoire, qui ont un tout petit peu changé cette donne. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu plutôt un bourreau de travail. Notamment dans la question de la préparation. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que, comme un certain nombre d'autres métiers, se retrouver devant un parterre de musiciens engendre une certaine forme de peur, d'anxiété, de la peur du jugement, la peur de rallier les musiciens à vous, de sentir que vous les fédérez, qu'ils ont envie de jouer, qu'ils ont envie de travailler. Et maintenant, j'ai vraiment tout à fait compris que la clé, la première des clés, c'est que même si vous êtes bourré d'idées, que vous avez l'impression que vous pourrez apporter quelque chose, si tout ça n'est pas d'abord gouverné par un travail extrêmement précis de préparation, le plus complet possible, le plus mûri possible, vous pouvez courir à la catastrophe.
La boulimie, elle y était quand même, même au conservatoire, au CNSM, parce que vous avez étudié dans plein de classes différentes. Et puis vous avez chanté beaucoup, on le sait peut-être un petit peu moins enfant, certes, mais vous avez démarré une carrière de contre-ténor. On va vous écouter tout de suite avec l'ensemble correspondance sous la direction de Sébastien Dossé.
Thank you.
Raphaël Pichon chanteur, c'était il y a quelques années déjà, Raphaël, c'était...
C'était donc un extrait de l'oratorio de Handel, Il Triunfo del Tempo e del Disinganno, et un air qui s'intitule Cre dell'uomo.
Vous réécoutez de temps en temps ou jamais, jamais, jamais?
Comme chanteur?
Ouais.
Non, jamais.
Pourquoi vous avez arrêté?
Oh, c'est un mélange de différentes choses, c'est un mélange de temps... et même de, j'allais dire, un peu de disponibilité mentale. C'est aussi un mélange d'hygiène de vie. Et en plus, contre-ténor, c'est une voix peut-être un peu plus fragile, qui demande un peu plus de disponibilité physique. Puis aussi, tout simplement, des paramètres que, petit à petit, quand votre ensemble devient un petit peu identifié, les gens, voilà, les gens maintenant estiment que je suis chef d'ensemble et plus chanteur. Donc, je n'avais tout simplement plus de travail. Et puis, j'avais pas la voix du siècle.
Faut pas brouiller les pistes. Chanter dans un chœur, est-ce que ça vous manque de...
Ça oui,
ou est-ce que parfois vous chantez avec vos choristes?
Ça c'est sûr. La polyphonie, c'est quelque chose qui me manque beaucoup plus. La sensation de créer un son à plusieurs. En plus, quand on est alto, c'est aussi cette joie de chanter les parties intermédiaires, d'être au cœur de l'harmonie, d'être au cœur du travail. Et puis aussi, tout simplement, d'apprendre beaucoup grâce aux autres. Je pense qu'une grande partie, au final, de mon éducation comme chef et comme musicien aujourd'hui vient de toutes ces expériences que j'ai eues comme choriste au sein de différents ensembles. Et j'ai eu la chance, à chaque fois sur des toutes petites durées, ça n'a jamais été très long, mais de chanter avec un grand nombre et très différent de chefs d'orchestre.
Par exemple,
j'ai passé beaucoup de temps dans un chœur qui a beaucoup compté pour moi, que sont les Cris de Paris, avec Geoffroy Jourdain, et notamment l'occasion pendant de nombreuses années, là pour le coup, de manger énormément de créations contemporaines, ce qui a été une vraie expérience, mais aussi avec des personnalités réelles du monde de la musique baroque cette fois-ci, avec Jordi Savall, avec Gustave Leonhardt, avec Ton Koopman, et j'en passe.
Rien de ça.
Et j'imagine qu'on les observe aussi quand on commence à être chef d'orchestre.
Bien
on
sûr.
On voit ce qu'il
sûr,
faut faire ou
bien sûr,
qu'il ne faut pas faire.
Exactement, exactement. C'est un vrai exercice pédagogique. Où on se transforme un peu en buvard et on essaye de faire la part des choses entre les choses qui nous plaisent, les choses où on découvre leur efficacité, mais que ça peut être des choses musicales, ça peut être des choses humaines, ça peut être des choses de communication, ça peut être des choses de gestuelle, d'attitude physique. Moi, je me sentais vraiment à l'école, mais avec une grand appétit.
Précisément, à l'école, au conservatoire, est-ce que ça s'apprend vraiment la direction d'orchestre?
Bon, c'est un débat sans fin, ça. Je pense que ce qui est clair, c'est que je ne fais pas du tout le même métier que, je prendrais par exemple un exemple, parce qu'on a à peu près le même âge, que Lionel Bringuier, donc jeune chef français qui commence une très 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 brillante carrière, lui comme chef symphonique, c'est-à-dire comme chef invité principalement, même s'il peut être à demeure dans un orchestre. Ça veut dire des répertoires très différents, mais ça veut dire aussi des codes de direction très différents, des attentes des musiciens très différentes aussi. Alors évidemment, bien sûr, il y a une base technique pour n'importe quel chef qui est universelle et qui se doit d'être apprise, mais avec cette difficulté pour tous les chefs d'orchestre, quels qu'ils soient, que nous sommes les seuls musiciens qui ne peuvent pas travailler leur instrument à la maison. Puisque agiter les bras devant un miroir chez vous ne remplacera jamais les musiciens qui sont devant vous. Donc la chose la plus importante, c'est l'expérience. Et cette expérience doit être vécue en face de musiciens. Et éventuellement d'ailleurs, au niveau très différent. Parce que chaque niveau de musicien technique appelle du coup des aptitudes techniques très différentes. Et aussi en termes de pédagogie et d'attente de la construction du travail. Et donc moi, j'ai fait ce choix quelque part d'apprendre mon métier en créant l'ensemble Pygmalion. Mais aussi avec d'autres différents chœurs que j'ai dirigés dans ma vie, de petits ensembles d'instrumentistes. Et aussi parce que, en étant moi-même ancien violoniste, claveciniste et chanteur, à la fois de jouer dans d'autres groupes et de commencer à apprendre mon métier avec mes propres groupes. Voilà. Mon éducation, elle est avant tout là, même si j'ai eu la chance pendant 2 ans de bénéficier de l'enseignement de Pierre Cao, grand pédagogue de la direction, et qui m'a vraiment donné tout simplement une forme de base technique.
La direction d'orchestre requiert aussi un certain talent de déchiffrage, talent que vous avez depuis longtemps, Raphaël. C'est ce que nous a confié l'un de vos anciens camarades. Si, ne me regardez pas comme ça, les auditeurs de France Musique le connaissent bien. Il était encore avec nous tout à l'heure d'ailleurs, c'est Rodolphe Bruno Boulmier.
On était tous les deux en classe de piano au conservatoire de Versailles.
chez un professeur qui s'appelait Christophe Vautier. Alors moi j'en garde un très mauvais souvenir, lui je ne sais pas. En tout cas je me souviens avoir fait du 4 mains avec Raphaël Pichon. On avait travaillé les marches hongroises de Schubert. Et lui, il les déchiffrait très très bien. Je me souviens avoir eu quelques séances de déchiffrage avec lui. Il arrivait en retard d'ailleurs dans les moments de répétition. Moi j'étais à l'heure, mais plus laborieux. Je me souviens aussi même qu'une fois, sa mère m'avait appelé pour me dire qu'il avait perdu son portable et qu'il serait en retard en répétition. Les souvenirs que j'ai de Raphaël Pichon, je suis un peu désolé pour lui. Mais...
Alors comme ça, vous êtes comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, toujours en retard.
Très honnêtement, oui.
Comment on fait pour son emploi du temps ? Plus sérieusement, comment vous organisez votre emploi du temps ? Est-ce que, par exemple, comme directeur de Pygmalion, vous savez déjà ce que vous ferez l'été prochain, dans 2 étés, dans 3 ans ?
Bien sûr, enfin bien sûr. Disons que dans le monde de la musique aujourd'hui, notamment sur des grosses formations, c'est-à-dire Pygmalion, le plus souvent nous produisons chœur et orchestre, donc on oscille entre des formations entre 40 et 100 musiciens. Donc évidemment, l'anticipation de projets comme ceci se fait très 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 en amont, très à l'avance. Donc c'est pour certains des gros projets, on peut le savoir jusqu'à 3 ans, même pour des projets d'opéra de temps en temps, jusqu'à 4 ans à l'avance. Mais disons que oui, d'une saison à l'autre, on peut se projeter. Et c'est quelque chose qui me paraît important aussi pour construire ces saisons, l'équilibre d'une saison, l'équilibre des répertoires, que chaque programme de saison en saison appelle le suivant, et que tout ça puisse être très lisible et puis aussi puisse, pour les musiciens et pour nous, appeler une progression, un chemin un peu cohérent.
Vous avez déjà gravé plusieurs disques également avec Pygmalion, vous avez changé de maison de disques, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi votre rapport à l'enregistrement ? C'est indispensable ? C'est pour se faire connaître ? On parlait d'organisation, ça prend beaucoup de temps aussi ?
Les enregistrements, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très différent d'il y a encore 10, 15, 20, 30 ans. On sait tous que voilà, aujourd'hui le marché du disque est un marché très compliqué, et encore une fois pour des ensembles comme nous, ces disques représentent un investissement très important, c'est-à-dire qu'ils, pardon d'être aussi pragmatique, mais ils nous coûtent très cher. Ils représentent à chaque fois, à mon sens, une façon de graver dans le marbre, de figer un objet, un des objets de nos répertoires, de nos programmes qui nous paraissent plus emblématique, plus fondateur, plus important, plus originaux éventuellement. Que voilà, l'intérêt, ce n'est pas de, à mon sens, enregistrer à l'appel n'a plus d'intérêt. De toute façon, n'est plus possible. Donc moi, ce qui me paraît important, c'est de modestement apporter à la discographie un petit plus supplémentaire qui n'existe pas déjà. Voilà, si c'est pour enregistrer, réenregistrer les mêmes pages, c'est pas forcément très intéressant.
Premier disque, précisément, avec les messes brèves de Jean-Sébastien Bach et cet extrait de la Missa Brevis en sol majeur, BWV 236.
Cum Sancto Spiritu, extrait de la Missa Brevis en sol majeur, BWV 236 de Jean-Sébastien Bach. Sous votre direction, Raphaël Pichon, Bach, il vous colle à la peau depuis toujours. Hein.
Oui. Tout simplement, c'est le compositeur, encore une fois, qui a vraiment guidé mon adolescence. Au sein de cette maîtrise,
aussi.
Voilà, mon premier coup de foudre. Au sein de cette maîtrise, on a joué beaucoup de Bach, donné beaucoup de Bach. J'ai fait partie de façon assez investie de, même d'une intégrale des cantates de Bach que l'on donnait une fois par mois à Versailles à la fin de mon adolescence. Et donc c'était en fait tout simplement assez évident que c'était le compositeur que je voulais mettre au centre des débuts des activités de Pygmalion. Et puis aussi peut-être parce que Bach est un compositeur qui peut vous suivre toute votre vie, même si les activités de l'ensemble Pygmalion ne se résument plus déjà qu'à Jean-Sébastien Bach et que nous allons visiter beaucoup de répertoires assez différents dans les années à venir, je suis très heureux que ce soit un pilier sur lequel on puisse revenir de façon incessante. Et puis certains de ses grands chefs-d'œuvre, enfin, sont des œuvres que l'on peut donner tout au long d'une vie de musicien.
Bach est encore sous votre baguette. C'était cet été au Festival d'Aix-en-Provence dans le spectacle mis en scène par Cathy Mitchell. On ne peut que vous conseiller, chers auditeurs, d'aller voir ce spectacle bouleversant en vidéo sur Internet. Vous retrouvez toutes les informations sur notre page Leur Belle Saison sur francemusique.fr. Avoir un ensemble, c'est être chef, c'est faire de la musique certes, mais c'est aussi être un peu chef d'entreprise, non ?
Bien sûr. Aujourd'hui, mon métier se partage entre peut-être 60 ou 70% de musique, ça dépend un tout petit peu des moments, et puis une grande partie de mes journées qui sont consacrées au développement, à la structuration, à la communication, à une réflexion sur les programmes, sur les répertoires, à la discussion avec beaucoup de personnes extérieures à l'ensemble, aux programmateurs, aux diffuseurs.
Il faut trouver de l'argent aussi, j'imagine.
Exactement. Alors ensuite, être capable de comprendre la façon dont fonctionne tout ça, être vraiment au courant et être totalement sensible aux grandes problématiques aujourd'hui des ensembles d'intermittents, être capable aussi d'aller chercher de l'argent, des concerts, de défendre un projet bec et ongles et donc de le structurer, d'être capable aussi de connaître les chiffres, de connaître... Il y a aussi toute une partie de ressources humaines, j'allais dire, c'est-à-dire la façon dont vous castez vos musiciens, dont vous les choisissez. De temps en temps, quand il faut s'en séparer, c'est des moments aussi qui peuvent être très délicats. Aussi, à notre petite dimension, sont de petites entreprises qui ont leur propre vie. Et du coup, c'est un métier qui peut être très complet.
Il y a deux musiciens que vous avez choisis, mais là, c'est deux solistes. Il n'y a pas très longtemps, à Saint-Denis toujours, la mezzo-soprano Marianne Crébassa et le ténor Julien Baird. Voilà ce qu'ils en pensent du Raphaël Pichon, chef d'orchestre.
Je pense qu'il a un énorme potentiel sexy et sympathie qui transmet énormément à ses musiciens, qui donne vraiment envie de jouer. Il donne vraiment tout le temps et puis il est tout le temps pénétré par cette musique. Donc je pense que pour lui, c'est un avantage non négligeable.
Tout le monde est très à l'écoute en fait. Il a une manière de parler, d'expliquer qui tout de suite intéresse, qui est vraiment est très efficace. Il est très précis. Il nous demande souvent d'être dans le théâtre, donc d'être vraiment dans le texte. Il a beaucoup d'affinités avec l'art vocal et puis c'est vrai qu'il nous met beaucoup à l'aise et puis il est très, très au fait de ce qu'est la technique, de quelles sont les difficultés, etc. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup le travail.
Thank you.
Un petit extrait des Vêpres solennelles d'un confesseur de Mozart sous votre direction, Raphaël Pichon, avec entre autres solistes Marianne Crébassa et Julien Bert. On vous le dit souvent, Raphaël, que vous avez un énorme potentiel sexy, comme le disait Julien Bert.
Non, ça c'est très propre
à Julien.
Ah, c'est très propre à Julien Bert, ténor avec tout ce que ça représente. Oh. Je dis ça avec beaucoup de tendresse, s'il m'entend.
Plus sérieusement, par rapport à ce que disait Marianne et à ce que tout le monde dit de vous d'ailleurs, c'est que c'est le chant qui prime dans votre direction.
Bon, mais ce qui est évident, c'est que je prends comme une grande, grande chance le fait d'avoir connu toutes ces années comme chanteur. Et je pense que c'est aussi relié tout simplement au répertoire. Je pense que ce qui change beaucoup maintenant avec nos générations, c'est que l'on comprend de plus en plus qu'il est vital aujourd'hui de comprendre d'où vient une musique pour mieux la cerner et mieux l'appréhender. C'est-à-dire que toutes ces résurrections des musiques anciennes, c'est de comprendre encore une fois cette notion de tradition, de filiation. Et que parce que l'on connaît la musique de Bach, on peut mieux comprendre celle de Mendelssohn. Parce que l'on connaît celle de Handel et de Palestrina, on peut comprendre mieux celle de Mozart et ainsi de suite. Et surtout, l'on comprend que plus l'on remonte en arrière, plus la musique vocale est liée à la musique instrumentale, plus le chant est lié à l'instrument, que la quête de beaucoup de compositeurs à beaucoup d'époques, c'était que la voix ressemble à l'instrument, que l'instrument ressemble à la voix, et que toutes ces données sont extrêmement connectées, extrêmement liées. Donc de baser sa construction de la musique sur le chant, et donc éventuellement aussi sur le texte, mais aussi sur le lyrisme du chant, sur la courbe d'une mélodie, sur l'écoute d'une harmonie, me paraissent en fait totalement naturelles. C'est pas vraiment une question que je me pose.
Mais quand vous êtes en période de préparation, que vous êtes à table avec votre partition, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous entendez? C'est quoi ce chant intérieur? C'est celui du compositeur ou c'est le vôtre?
Avant de tenter d'entendre cette musique, à mon sens, il y a tout un autre travail de collecte d'informations. Quelle est la place de cette œuvre dans la vie du compositeur, dans le contexte général de l'époque, le rôle qu'elle a pu jouer sur d'autres compositeurs? S'il a écrit ça, est-ce que ça vient d'un héritage direct pris d'un maître ancien? Voilà. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le texte, pourquoi ce texte? Que sont ces mots? D'où ils viennent? Il y a toutes ces choses-là qui me paraissent très importantes pour être le plus objectif possible avant de débuter un travail réel de décortiquage, d'analyse, voilà. Et que tout ce travail-là, ce n'est pas qu'un travail intellectuel bête et méchant, c'est un travail qui doit permettre ensuite d'avoir la plus grande disponibilité possible pour se concentrer ensuite sur l'affect, la musique. C'est-à-dire, on sait que le plus souvent, les plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, ce sont ceux qui ont trouvé cette espèce d'équilibre magique entre le cœur et l'intellect. Et Bach ou Mozart sont de très grands exemples. Évidemment, Bach, compositeur extrêmement savant, avec cet appétit des sciences, et qui pourtant est un compositeur qui peut parler à tout un chacun, même si l'on ne connaît pas la mécanique interne des musiques. Et donc je pense que dans la préparation des partitions, c'est un petit peu la même chose. C'est de découvrir la mécanique, les raisons, pour ensuite être le plus disponible possible pour le cœur.
Ça donne envie d'être chef d'orchestre. Bon, Raphaël Pichon, on va écouter maintenant une chanteuse qu'on aurait adoré avoir dans cette émission, car elle aussi, quelle belle saison elle a eue. C'est Sabine de Vielle, vous la connaissez bien, je crois. Hein.
Oui.
Thank you.
Sabine Devielle est Vénus dans cet extrait de Dardanus, extrait de votre dernier disque, Raphaël Pichon avec l'ensemble Pygmalion. Vous nous avez parlé un peu de vos projets, mais vous n'avez pas été très précis tout à l'heure. C'est quoi votre prochain disque? On peut le savoir ou pas?
Eh bien, je viens de terminer le montage. C'est donc ce fameux projet de reconstitution de ce qui serait la cantate la plus longue de Jean-Sébastien Bach, en 4 parties, 1h40 de musique, écrite à la suite de la mort du prince Léopold de Köthen, donc l'employeur de Bach quand Bach était à Köthen, personnage très important dans la vie presque affective de Bach, grand mélomane, synonyme d'une époque que Bach n'a jamais ensuite retrouvée à Leipzig, là où il a passé la suite de sa vie. Ce prince Léopold qui est même parrain de l'un de ses enfants. Et quand il meurt, c'est tout naturellement vers Bach qu'on se tourne pour écrire une musique funèbre. Cette cantate, on a perdu la musique, on a gardé le texte et on a gardé un certain nombre d'informations sur qui jouait, qui chantait. On savait notamment que beaucoup de personnes de la famille de Bach ont chanté, sa femme, son fils. Et des scientifiques se sont rendus compte de la proximité des textes avec une bonne partie de ceux de la Passion selon saint Matthieu. Le nombre de vers, le nombre de pieds, les sonorités. Il y a un air pour alto dans ce texte qui s'appelle Erhalte mich, qui ressemble beaucoup à Erbarme dich. Ensuite, un air qui s'appelle Tsagenour, qui ressemble beaucoup à Blutenour, qui est un autre grand air de la Passion selon saint Matthieu. Et donc, qui se sont rendus compte que cette cantate a été écrite le même mois que la Passion selon saint Matthieu. Et que donc, il y a de grandes chances que ce soit une parodie de la même musique pour une grande partie. Et ce jeu de pistes a été continué par tout un tas de scientifiques depuis le milieu du 19e siècle. Et ce jeu de pistes a permis de comprendre que nous avions éventuellement la totalité de la musique dans le reste de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, et que même les récitatifs, qui sont souvent un peu les limites des reconstructions d'œuvres de Bach, sont les récitatifs accompagnés aussi de la Passion selon saint Matthieu. Et donc, il manquait encore quelques bouts, et nous sommes lancés avec Pygmalion il y a 3 ans dans tenter de reconstituer ce puzzle. Et donc, nous avons donné cette œuvre pendant 3 ans en concert, avec la participation de différents scientifiques, dont Morgane Jourdain, qui m'a beaucoup aidé dans ce travail. Et nous avons décidé de livrer ce résultat au disque. Et ce que je trouvais aussi fascinant pour nous, jeunes musiciens, c'est de se dire qu'on peut encore aujourd'hui trouver à l'intérieur de l'œuvre de Bach des terrains inexplorés et de ressusciter pour la première fois une œuvre aussi importante que celle-ci dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach.
Vous parliez de répertoire que vous pourriez explorer autre. Ce serait avec Pygmalion ou pas?
Bien sûr.
Dans les années à venir.
Bien sûr. Pygmalion... Et ma priorité, ma famille, mon socle.
Il y a Bach dans la vie, il y a Schoenberg, il y a même parfois Radiohead.
Oui, je suis un aficionado un peu maladif de Radiohead. Je crois que c'est 96 au Hockey Computer, donc c'est plutôt mon adolescence. Mais c'est aussi un exemple, parce que Radiohead, je trouve, est un groupe assez fascinant, qui réinvente à chaque album un nouveau langage, même s'il y a malgré tout ce fil rouge. Voilà, je trouve que ça peut être tout à fait un exemple pour nous musiciens aujourd'hui.
Demain la rentrée pour tout le monde, sauf pour vous qui prenez des vacances tout le mois de septembre. Et puis on vous retrouve en octobre avec le disque dont vous parliez Tombeau pour le prince de Cotton chez Harmonia Mundi sort le 7 octobre. Et puis on vous retrouvera entre autres en octobre à Ambronay, à Bordeaux, à Royaumont et à Paris, à la Cité de la Musique.
Merci beaucoup Raphaël Pichon et à très bientôt. Merci à Julien Douminc à la technique, à Géraldine Prutner qui a réalisé cette émission, à Pauline Boisaubert, attachée de production. Et merci à vous de nous avoir suivis tout l'été. Bonne rentrée à tous.